Sur ce sujet, vous savez qu'on parle beaucoup depuis Gilson de philosophie chrétienne. C'est donc quelque chose qui reste assez difficile à préciser. Y a-t-il une philosophie chrétienne? Ou n'y a-t-il pas de philosophie chrétienne? Y a-t-il une mathématique chrétienne? Ou n'y a-t-il pas de mathématique chrétienne? Y a-t-il politique chrétienne ou n'y a-t-il pas de politique chrétienne? Y a-t-il un art chrétien ou n'y a-t-il pas d'art chrétien? Je presse tout ça, je veux secouer tout ça en même temps. Y a-t-il une critique chrétienne ou n'y a-t-il pas de critique chrétienne? C'est très intéressant, ces questions-là. C'est pas commun, c'est pas commun du tout à préciser. Quand on emploie ça, il suffit qu'un journaliste emploie ça pour qu'immédiatement tout le monde le répète. Sans réfléchir du tout. Ni le journaliste, ni les autres. Alors c'est encore mieux, les gens suivent. Alors Gilson n'était pas un journaliste, mais Gilson a émis un jour philosophie chrétienne. Comme on parlait de culture chrétienne. Aristote dit avec beaucoup de précision qu'il faut toujours distinguer la culture de la philosophie. Il a raison. La culture est quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus difficile à préciser ce que c'est qu'une culture que la philosophie. C'est déjà pas commun de préciser ce que c'est que la philosophie. Alors vous comprenez, il y a une culture chrétienne, c'est bien évident. Comme il y a un certain humanisme chrétien, c'est sûr. Comme il y a un art chrétien, je crois qu'on ne peut pas l'oublier. Regardez Frangelico, ça me semble très difficile de ne pas dire que Frangelico est un art chrétien. Ça, je prends extrait de cas le plus matin, s'il y a d'autres cas, on pourrait discuter. Mais pour Frangelico, ça me semble très très difficile. Il y a un art chrétien. Prenez une petite église romane, je pense que c'est très difficile de dire que l'église romane n'est pas un art chrétien. L'art baroque, on peut discuter. On peut discuter. Tandis que quand il s'agit d'une basilique romaine, ça me semble très difficile. Les cathédrales sont de l'art chrétien. La sculpture chrétienne aussi. Évidemment, je sais, malheureux, à mis en parallèle les deux, en montrant qu'il y avait des parallélismes. C'est sûr qu'il y a des parallélismes. Mais il y a quand même un art chrétien. Les mathématiques chrétiennes, c'est pas moi qui ai parlé de ça, c'est un professeur de polytechnique. J'ai entendu la première fois, il y a 20 ans, j'ai entendu un professeur de polytechnique chrétien qui m'a dit, qui disait dans une conférence qu'il y avait des mathématiques chrétiennes. J'ai bondi. J'ai envie de dire quel théorème nouveau qui est dans la révélation. Là, évidemment, je n'ai pas demandé. Mais au fond, il n'y a pas de mathématiques chrétiennes, il n'y a pas de géométrie chrétienne. Mais il y a des professeurs de géométrie et de mathématiques qui sont chrétiens. Ce n'est pas la même chose. Alors qu'ils soient intelligents. Dans les temps chrétiens, qui ne s'opposent pas. C'est pas. On peut être intelligent et super intelligent dans un chrétien. La foi ne suffit pas intelligent. La foi respecte tout conditionnement d'intelligence. Donc, il n'y a pas de mathématiques chrétiennes. Y a-t-il une politique chrétienne? Il y a des partis chrétiens. Ça, c'est autre chose. Je crois qu'il y a des hommes politiques qui sont chrétiens. Mais c'est un sujet très difficile que je réserve ça pour l'année prochaine. Nous verrons traiter la question de la politique l'année prochaine et nous essaierons à ce moment-là de voir ce qu'est une politique chrétienne. C'est un sujet très intéressant, qui est très difficile. Et même dans des milieux où il y a une certaine unité de pensée, je pense par exemple à la communauté de Saint-Jean, on a eu une fois une question discutée sur savoir si c'était une politique chrétienne ou pas. Eh bien, ça a été divisé en deux camps. C'était très net. Il y avait deux camps. Je ne dirais pas les orientations des deux camps, c'est facile à comprendre. mais il y avait d'autres, alors les uns qui prétendaient, politique chrétienne, je veux dire, politique. J'ai dit trancher, le jugement de Salomon, comme a dit tout couper en deux, je veux dire que, de fait, je crois qu'il y a des hommes politiques chrétiens. Je crois qu'il peut y avoir certains éléments chrétiens dans la politique. Mais je n'oserais pas dire politique chrétienne. Et ça, nous verrons ça l'année prochaine. Parce que c'est quand même très important de réfléchir là-dessus. C'est pas comme moi. C'est pas comme moi du tout. Hein. Je vous interroge, je suis persuadé que j'aurai des tas de réponses et des tas de raisons diverses. Savoir que c'est une politique chrétienne. Alors, y a-t-il une philosophie chrétienne hein, au sujet brûlant? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Et c'est simple à comprendre. C'est que la révélation ne nous donne aucun nouveau concept. La révélation nous donne une nouvelle finalité. C'est pas la même chose. La révélation respecte entièrement notre manière de parler. Dieu se sert du langage des hommes. Si Dieu ne se servait pas du langage des hommes, il n'y aurait pas de théologie. Par le baptême, on recevrait d'une manière infuse une nouvelle langue qui serait la langue des chrétiens. C'est merveilleux. Par le baptême, on acquérait une nouvelle langue. Or, par le baptême, on n'acquiert pas une nouvelle langue. Si on est doué pour apprendre des langues, ça reste. Et si on n'est pas doué, ça reste encore. Mais ça, donc, ça ne change rien du tout là-dessus. La révélation ne nous donne aucun nouveau concept. Je prends concept au sens précis du mot. Elle nous donne un nouveau jugement, un jugement d'existence, un jugement à l'égard de la finalité. De sorte que je ne peux pas dire que la découverte de l'existence de Dieu me donne un nouveau concept de l'être. Et je crois que c'est très important de comprendre cela. Lorsque je découvre l'existence d'un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, je n'ai aucun nouveau concept de l'être. C'est très difficile à comprendre. Et c'est très important. Évidemment, si on regarde l'histoire de la pensée, on voit qu'il y a des théories diverses, hein, c'est bien évident que je vous dis ici. C'est ce que je crois être la vérité, n'est-ce pas ? Après avoir longuement réfléchi sur ce sujet, croyez-le bien. Parce que je crois que c'est un sujet très important, c'est pas du tout négligeable. De dire qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Et que la métaphysique, elle est la métaphysique. C'est-à-dire l'intelligence qui cherche à découvrir la réalité dans cela le plus profond. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, la métaphysique que ça l'est. Aristote n'était pas chrétien, donc il pouvait venir métaphysique que saint Thomas n'a pas dit du tout. Et saint Thomas n'a pas dit du tout. Ah, c'est païen, donc c'est pas bon. Pas du tout. Ça, c'est l'université de Paris qui a dit ça. Mais c'est pas saint Thomas. Saint Thomas est plus loin de l'université de Paris. L'université de Paris considérait que se servir d'Aristote était un païen. Et l'Université de Paris a condamné saint Thomas au nom de la foi catholique. Parce qu'il s'était servi d'un païen. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est quand même très intéressant de voir ça. Et saint Thomas n'a pas hésité de chercher la vérité. Si cette vérité lui vient d'un païen, ou qu'elle lui vient d'un chrétien, ou qu'elle lui vient d'un musulman, ça lui dégage. On cherche la vérité. Et c'est ça la métaphysique. Hein. C'est ça la philosophie. C'est de rechercher la vérité. Donc quand Étienne Gilson dit qu'il y a une philosophie chrétienne, je crois qu'Étienne Gilson fait une erreur avec tout le respect que je lui dois et toute l'amitié que je lui dois, mais je crois que Dieu du ciel ne comprend très bien. Alors je peux préciser que de fait, quand Gilson dit cela, c'est parce que tout simplement Isla dans un point de vue historique. Alors il est sûr que la foi chrétienne a représenté une nouvelle étape. Je vous le dis déjà plus d'une fois. Je crois que quand on essaie de regarder l'histoire de la pensée occidentale, il faut la ponctuer de cette manière. Première période, la philosophie grecque. Et la philosophie grecque va loin, puisqu'elle va du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Puisque le temps, c'est après Jésus-Christ. Et c'est encore la philosophie grecque. Et la philosophie grecque pose le problème d'une philosophie face aux traditions religieuses. Il ne faut jamais oublier. C'est propre de toute cette recherche philosophique. Les traditions religieuses jouent un rôle fondamental ou un rôle, si vous voulez, enveloppant. Ça dépend comment on le regarde. C'est le logos qui essaie de conquérir le mouton religieux, le mythe religieux. C'est ce que dit Heidegger, tu vois. Alors, il parle du mouton, on voit très bien. C'est le mythe et le logos. Et on peut dire que toute cette partie de la philosophie, c'est le logos du vrai, donc le logos de la pensée, contre le mythe du moins, face aux traditions religieuses, pour essayer de voir jusqu'où la pensée peut aller dans cette recherche des traditions religieuses. Cette première partie de la philosophie, la du 6e ou 7e siècle, peu importe comment vous pensez, à peu près ça, déviore à notre temps. Et même on peut dire plus loin, Proclus, Damasus, qui sont les premiers néoplatoniciens. Et donc ça va jusqu'au 3e et fin du 3e siècle. Et toute cette philosophie grecque s'est développée indépendamment de la révélation chrétienne. Second moment très important, c'est la période, si vous voulez, de la philosophie, donc la seconde période, qui va des théologiens, alors on dit Philon, c'est-à-dire que Philon n'était pas un chrétien, Philon était un juif croyant, qui est le premier théologien, c'est-à-dire le premier qui se sert de la philosophie grecque pour faire une théologie. Philon a été rejeté des Juifs et reçu par les chrétiens. Très intéressant. Et les chrétiens reçus. Philon, c'est tout à fait 500, l'an 500, après Jésus-Christ. Donc c'est tout à fait le début. La théologie a commencé par un Israélite qui s'est servi de la philosophie grecque. Très, très joli, très beau, très bon. C'est le père d'Aguilou qui s'est beaucoup intéressé à Philon. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Et le père d'Aguilou a repris toute la cité de Philon en montrant l'importance de Philon. Et il a eu raison. Parce qu'il montrait à ce moment-là comment il était en présence de la philosophie tout à fois. Cette fois des juifs, effectivement, mais immédiatement après, c'est de la foi chrétienne. Saint Justin, Saint Irénée, on fait de tous les pères de l'Église. Je crois que la seconde période, vous pouvez mettre en première période grecque, de la période de la philosophie et de la foi, alors là, ce sont des théologiens, ce ne sont pas du tout des philosophes. Aucun des pères de l'Église, aucun des théologiens du Moyen Âge ne cherche une nouvelle philosophie. Ils considèrent que les Grecs ont suffisamment travaillé. Mais ils utilisent la pensée grecque. Et c'est très curieux ça. Et c'est très intéressant. Ils utilisent la pensée grecque. Parce que dans la pensée grecque, d'une certaine manière, on trouve toutes
des possibilités de philosophie. Si on étudie attentivement ce que Merleau-Ponty appelle le berceau de notre pensée occidentale, c'est vrai que le berceau, quand vous êtes fatigué, faites de la philosophie grecque. C'est très reposant. C'est berceau, c'est extrêmement reposant. Et c'est très beau et ça nous rajeunit. C'est extraordinairement beau. Ça donne une très grande force de la philosophie grecque. Moi, je suis très heureux d'avoir enseigné à Fribourg la philosophie grecque. Parce que c'est très reposant, c'est très intéressant. Il y a quelque chose d'important, ça va très loin. Une idiote, un Damascus, vous voyez, ça fait quand même une longue période de vraiment de recherche honnête de la vérité. Tous ces philosophes grecs cherchent la vérité. Ils sont polarisés par la vérité. Et c'est pour ça qu'ils donnent quelque chose qui restera toujours, je crois, le berceau de notre philosophie occidentale. La seconde question, c'est la période du théologien, du théologien, du théologien. Et cette seconde période, c'est la philosophie au service de la foi. Fidèle, forens, intellectus. La foi cherchant l'intelligence. Ils partent de la foi, ils se servent de la philosophie pour essayer de découvrir s'il n'y a pas une certaine intelligence à découvrir dans la foi. La foi en elle-même n'implique pas l'intelligence, ça implique l'adhésion simplement, une adhésion de foi, une adhésion à la parole de Dieu. Mais comme cette parole de Dieu est une parole qui est la même que la nôtre, la seule différence c'est que Dieu s'en sert, donc il doit y avoir quelque chose à comprendre. Et ces théologiens cherchent à comprendre ce que représente la parole de Dieu. Ils veulent aller le plus loin possible. Là, vous trouvez une très grande variété de filons, j'allais dire, jusqu'au dernier des théologiens d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une telle chose qui produit, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Les théologiens, c'est quelque chose de particulier. C'est une race particulière. Il faut bien se comprendre. Ils partent de la foi et ils se servent de la philosophie. Alors, vous comprenez, quand ils se servent d'une philosophie platonicienne, néoplatonicienne, aristotélicienne et chez les modernes, une philosophie hegélienne, une philosophie qui est dans, si vous voulez, Michel, ou une philosophie freudienne, si on peut dire philosophie, je vois, alors ça fait des diversités très très grandes. C'est vrai, le domaine de la théologie est très varié en fonction de la philosophie dont vous servez. Quand vous étudiez un théologien, demandez-vous toujours s'il est croyant. Et quelle philosophie se sert? C'est la seule manière de le comprendre, parce qu'il se sert toujours de telle ou telle philosophie. Il y a un théologien qui se sert d'aucune théologie est un mauvais théologien. Je me souviens, c'est une petite anecdote qui peut être intéressante quand même, un théologien de Fribourg, ou un philosophe de Fribourg qui voulait étudier quelle était la philosophie qui était impliquée dans la théologie de Karl Rahner. Vous savez, Karl Rahner, c'est quand même un des grands théologiens de notre monde d'aujourd'hui, c'est celui qui a joué le rôle principal au Concile. Karl Rahner est un Allemand, comme le nom l'indique, n'est-ce pas? Eh bien, Karl Rahner a fait une théologie. Alors, cet étudiant, comme les jeunes étudiants, tous les culots possibles, a écrit une lettre à Karl Rahner. Il m'avait demandé si vous pouvez le faire. Faites-le. Car moi-même, en autre, a écrit à Karl Rahner pour savoir quelle philosophie est impliquée dans sa théologie. Alors, il a reçu une lettre de Karl Rahner, c'est une lettre pour nous avoir Karl Rahner. Je n'ai aucune philosophie. Ça admirable. Je n'ai aucune philosophie.
C'est vrai que Karl Rahner prend à saint Thomas, prend à Heidegger, prend à Saint-Delarme, prend à Tel. Il n'a aucune philosophie. Je crois que le jour où un théologien dit qu'il n'a aucune philosophie, c'est la mort de la théologie. Pour moi, personnellement, je vous dis ça. Réfléchissez là-dessus. Parce que je crois que le propre de la théologie, c'est toujours la foi qui peut faire une pensée philosophique. Et c'est Karl Rahner qui a dit cette chose très importante, je dirais, au moment du concile. Il a fait cet aveu. Il a dit la théologie nouvelle, à la différence de la théologie ancienne, c'est de remplacer la métaphysique par l'anthropologie. Ça fait dire. Explicitement. Donc de remplacer la métaphysique par l'anthropologie. À ce moment-là, il concevait quand même qu'il y avait une certaine philosophie qui disait ça. Et quand un étudiant lui a posé la question, je veux étudier et faire une thèse sur vous pour voir quelle est la philosophie qui est impliquée dans votre théologie, il a répondu, je ne me sers d'aucune philosophie. C'est anecdote, c'est pas intéressant, parce que c'est toujours intéressant de réfléchir sur les théologiens modernes, c'est pas de voir que la théologie a commencé en philo, puis elle meurt avec Karl Rahner. Alors, nous enfermons de première classe, quand même. Alors, il faut le voir. Alors, sérieusement, il faut comprendre qu'à partir de ça, la philosophie a voulu reprendre son autonomie face aux théologiens. Ça, je crois que c'est très important de comprendre. Bon, ça a commencé avant Descartes par ça. Et nous sommes en présence du troisième moment de philosophie, je vous dis ça, un troisième moment de philosophie, c'est la philosophie qui veut redécouvrir son autonomie. C'est très curieux, c'est le souci du philosophe de redécouvrir son autonomie. Et donc, qui ne cherche plus la vérité, mais qui cherche la certitude. Et ça, c'est très important à comprendre. Hein. Alors, je crois qu'on peut dire que Descartes a été là, une période très importante et qui a une certaine homogénéité de Descartes. Parce qu'à partir de Hegel, il y a un éclatement de philosophie. Et là, on est dans la dernière partie. Qui serait l'éclatement et qui serait la naissance. C'est pas moi. Je prends ça. J'en suis convaincu de cette division-là. Mais il y en a plusieurs. Hein. Merleau-Ponty n'hésite pas à prendre une division comme celle-là. Et Kelvin prend aussi la même chose. Je crois qu'il y a quelque chose de très objectif là. Si on étudie objectivement l'histoire de la pensée occidentale, on peut donner comme quatre grandes tendances. La philosophie grecque, qui est le berceau. Alors, évidemment, dans la philosophie grecque, vous prenez une quantité de moments, hein, mais qui est le berceau. La théologie, on ne peut pas vous dire, la théologie a joué un grand rôle. Et c'est ça qui en est la chose la plus terrible pour les philosophes modernes, c'est de voir que leurs grands textes sont les théologies. Pas drôle d'avoir un grand père théologien, pas drôle du tout. Alors on comprend très bien la lutte très très particulière de redécouvrir l'autonomie. Vous voyez, c'est le fils qui veut redécouvrir son autonomie par rapport à son père. Alors il va me dire là, pour être sûr d'être autonome, peu importe de quelle façon, mais il veut découvrir son autonomie. Et au fond, c'est la philosophie qui veut découvrir son autonomie. Et ça paraît que c'est intéressant. Oui, 16e siècle. Ben, c'est quand même ancien. Si on leur dit que c'est le siècle des cas, ils veulent.
repense pas d'une pensée très particulière, qui serait très intéressant dans ça. Je crois qu'on pourrait caractériser cette période d'une façon générale de Descartes à Hegel et de Suarez à Hegel, on pourrait la caractériser comme la période de l'ontologie. L'ontologie, c'est de voir que c'est à partir de Dieu qu'on comprend toute chose. C'est très curieux. Ceci est parfaitement vrai chez les théologiens. Le propre du théologien, c'est de regarder tout dans l'avenir de Dieu. Si je suis théologien, si je suis croyant, je regarde tout dans l'avenir du Christ, dans l'avenir de Dieu. C'est normal au point de vue de la foi. Comme ces philosophes sont nés de théologie, Descartes a eu son professeur de Suarezien. Et Suarez est encore un théologien. Suarez est à la fois théologien et il veut être philosophe. Et c'est pas ça entre les deux. Et sa philosophie, c'est tout simplement essayer à travers la théologie de redécouvrir une pensée autonome. Je ne peux pas redécouvrir l'autonomie de la philosophie en laïcisant la théologie. Je ne peux redécouvrir une vraie pensée philosophique qu'en reprenant mon expérience humaine et en réfléchissant sur mon expérience humaine. L'erreur de Suarez, l'erreur de Descartes, faut le dire, c'est d'être encore trop théologien. Et ça, c'est humain. Et ça, c'est vrai dans la connaissance. Alors, parmi cette même, j'ai très curieux, quel est le reste de la théologie qui reste, qui demeure dans la philosophie? C'est l'ontologie. Or, l'ontologie consiste à dire je ne peux connaître le fini qu'à partir de l'infini. Malebranche dit ça admirablement. Et Descartes dit à peu près la même chose. Puisque c'est le concept d'infini qui permet de connaître l'infini. Donc je ne peux connaître l'homme qu'à partir de Dieu. Et je ne connais l'homme que dans les lumières de Dieu. Ce qui est parfaitement vrai au point de vue de la foi et ce qui est faux au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, c'est mon expérience humaine qui permet progressivement de découvrir ce que c'est l'homme. C'est mon expérience humaine. C'est mon expérience de travail, c'est mon expérience de l'amour d'amitié, c'est mon expérience de la coopération qui permet de découvrir ce que c'est l'homme. Je ne peux pas découvrir l'homme à partir de Dieu, puisque philosophiquement, je n'ai pas d'expérience de Dieu. Je n'ai d'expérience de Dieu que dans la foi. Je n'ai pas d'expérience de Dieu dans la philosophie. Je pose l'exigence et la nécessité de poser Dieu. C'est tout à fait différent. Et c'est le terme ultime. Et donc je ne connais pas l'homme à partir de Dieu. Ça, c'est la foi qui me permet de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais la philosophie ne me permettra pas de dire tout de suite, au terme de la philosophie, je pourrais dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais pas au point de départ. Au terme. Alors la confusion, vous voyez, techniquement, on dira, l'ontologisme, c'est la confusion de la via inventionnée, de la via sapientiae. Je traduis pour que vous compreniez, n'est-ce pas? C'est-à-dire la confusion de la voie de la recherche et la voie du jugement sagesse. Alors on confond ce que représente la recherche et puis le jugement sagesse. Et c'est une confusion personnelle. Alors ça, c'est l'ontologie. De l'ontologie, et non les idéologies athées. Alors, les idéologies athées, c'est le numéro 4e moment. C'est à partir de Hegel. C'est l'éclatement de l'ontologie de Hegel qui donne naissance à toutes les idéologies athées modernes. Et toutes les idéologies athées modernes, donc depuis 140 ans, ou 150 ans, toutes les idéologies athées sont des anti-ontologies. En réalité, ils ne remontent pas aux dates de l'âme. Ça, c'est pour, hein, comme pensée philosophique. Parce que Descartes, c'est pas vieux. Hein. C'est comme si, au point de vue de l'art, on ne remontait pas au-delà du XVIIe siècle. Hein. Si, au point de vue artistique, vous ne remontiez pas au-delà du XVIIe siècle, je ne sais pas ce que dirait un professeur d'art en disant que c'est imbécile. Alors, au point de vue de la pensée, je dis la même chose. Hein. C'est la même chose. Ne pas remonter au-delà de Descartes et considérer que Descartes est un dieu, non. Il y a autre chose avant Descartes. Il y a des choses bien intéressantes avant Descartes. Alors, l'ontologie est tellement puissante qu'il y a donné naissance à des anti-ontologies. Et ces anti-ontologies, c'est ce que nous appelons les idéologies athées. Et je crois que c'est très important, en face des idéologies athées, de comprendre qu'ils sont tout simplement des libérations de l'ordre. C'est la théologie de la libération, tout simplement. Libérer l'homme, dans l'ontologie, on considère que l'homme est relatif à Dieu, on veut dire, mais pas du tout, c'est ce que dit Feuerbach, pas du tout, regarde l'homme pour lui-même. Enfin, ils ont raison. Dans ces anti-ontologies, ils ont raison de dire, il faut regarder l'homme pour lui-même, il faut découvrir l'homme dans ses dimensions propres. Et le vrai philosophie, c'est découvrir l'homme dans ses dimensions propres. Et là, nous sommes en face, on peut dire que Nietzsche est la dernière thèse de ces anti-ontologies. C'est très intéressant d'étudier toutes les idéologies athées dans cette perspective-là, que je crois être historiquement vraie. Alors, ce petit tableau hein, vous montre bien que quand nous sommes dans la philosophie occidentale, nous devons toujours avoir ces différents registres. Autrement, on ne comprend rien. Parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est très important de regarder ça. Alors, le problème que nous touchons maintenant, la métaphysique, est-elle chrétienne ou pas? La métaphysique, elle est métaphysique. Et c'est la philosophie première. Et c'est comme ça qu'on voit la chose. Que métaphysique, j'avais bien que le terme métaphysique, c'est venu des bibliothécaires. Je n'ai rien contre les bibliothécaires, mais les bibliothécaires ne sont pas nécessairement des philosophes. Les bibliothécaires ont un génie d'organisation que les philosophes n'ont pas, mais que les bibliothécaires ont. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fichiers. Hein, ça fait partie des bibliothécaires. Ils font des fichiers, ils font bien. Alors, après la physique, il y a la métaphysique. Vous comprenez? Après. Un premier tiroir, un second tiroir. C'est après. Et ça, c'est très, très matériel. Hein? Fichier matériel. Aristote appelle, lui, philosophie première. Et Platon l'appelle aussi philosophie tout court. Mais ça, c'est pour dire philosophie première. Il faut laisser tomber le métaphysique, qui trouble toujours un peu. Il faut dire métaphysique, c'est après la physique. Pas du tout. La philosophie première, elle n'a pas de place. Elle est première, alors elle peut être tout de suite donnée, et elle peut être donnée en dernier lieu. C'est ça qui est propre à la philosophie première. La philosophie première regarde ce qui est. En tant qu'il est. Donc, il regarde la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. C'est ça la philosophie première. La philosophie première éliminée en philosophie grecque. Et en philosophie grecque, la philosophie première dit qu'à partir de là, va naître la théologie. Le mot théologie est donné. Ici, c'est le philosophe grec. Ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire théologie? Ça veut dire le logos, donc le discours, le raisonnement, la réflexion sur Dieu.
Bien. La philosophie première repère ainsi une idéologie. Une idéologie philosophique réfléchit sur les traditions religieuses pour voir si ces traditions religieuses étaient de pure mythes ou ces traditions religieuses impliquaient quelque chose d'intelligible. De sorte que le mot théologie est grec. Il ne faut pas l'oublier. Il est grec de multiples manières. Il est grec parce qu'il a été inventé par les philosophes grecs. Et le mot sagesse revient toujours, évidemment. Alors, est-ce que la foi va modifier ma pensée philosophique? Si vous regardez ce second moment, vous voyez, aucun des pères de l'Église, aucun des grands théologiens du Moyen-Âge n'aurait eu le toupet, je dis bien le toupet, de dire que la foi puisse modifier la philosophie. C'est-à-dire la philosophie séculaire. Aucun. Je crois que c'est un procédé de récupération. Ils ont tant de choses à dire, puisque la foi vient de Dieu et que la philosophie vient de l'homme. Et donc, il y a une distance infime entre le point de vue de la lumière qui vient de Dieu et la lumière qui vient des hommes. Mais vous avez cette conviction qu'il ne pouvait pas y avoir de contradiction entre la foi et la philosophie. Puisque la foi, comme la philosophie, dans son origine, venait de Dieu. Et donc, il ne peut pas y avoir d'opposition. Et donc, il pourrait y avoir une harmonie entre les deux. Et donc, la foi pouvait se servir de philosophie. Mais jamais, vous avez dit que la foi donnait une nouvelle philosophie. Une fois tant de modèles, juste pour dire qu'elle est une chrétienne. J'ai dit ça parce que ça se répète tout le temps, dans tous les livres de, soi-disant, de, voyez, bon, de bonne tradition. Alors on dit philosophie chrétienne. Non, culture chrétienne n'est pas une métaphysique chrétienne. Mais il y a une éthique chrétienne. Alors là, oui, je dirais une éthique chrétienne. Donc, dans la philosophie, il y a une partie de la philosophie. C'est la philosophie pratique. La philosophie pratique, c'est qui nous fait comprendre ce que représente l'acte humain et qui nous fait réfléchir sur l'acte humain, je dirais, il y a une éthique chrétienne. Bon, c'est ce que nous avions essayé de comprendre la dernière fois. Il y a une éthique chrétienne. Pourquoi? Parce que par la foi, je découvre une nouvelle finalité. Alors, pas de métaphysique chrétienne, mais c'est ça très joli, parce que ça me semble très important. Pas de philosophie première. La philosophie première, elle regarde ce qui est. Bien, ceci n'est pas modifié par la foi. Mais vous pouvez dire une éthique chrétienne. Et vous dites une éthique chrétienne, pourquoi? Parce que la foi nous donne une nouvelle finalité. C'est vrai. En tant que croyant, je suis ordonné au royaume de Dieu. En tant que croyant, je suis ordonné à la béatitude.
une béatitude qui est celle du Christ, qui est celle de Dieu pour moi. Et donc, à partir de la foi, je peux dire que c'est une nouvelle finalité. Et sur une nouvelle finalité, il y a donc une éthique chrétienne. Pas une métaphysique chrétienne, mais pas une philosophie première chrétienne, mais une éthique chrétienne. Ceci, je voulais vous le rappeler, parce que je crois très important. Alors, nous allons maintenant toucher ce problème très délicat. Quel est l'ordre d'une éthique chrétienne? Quel est l'ordre d'une théologie morale? Alors, comprenez bien. La théologie morale, elle se situe ici.
Partie de la théologie. Dans la théologie, il y a une théologie morale.
Et l'éthique chrétienne, c'est justement ce fait que la foi me donnant une nouvelle finalité, l'homme, essaie de comprendre comment cette finalité va permettre à l'homme de s'ouvrir, de s'orienter vers une finalité nouvelle. Alors, la réflexion que je crois importante, c'est qu'on ne sait pas suffisamment, c'est pour ça que je la fais. Donc, quand on voit des confusions, on essaie d'éviter ces confusions. Parce que ces confusions amènent nécessairement des erreurs. Je crois qu'il est important de bien distinguer ce que représente une éthique chrétienne et une théologie morale. J'espère que vous comprenez maintenant la question que j'ai dit, la première chose qu'on me fait, c'est de comprendre la question qui se pose. L'éthique chrétienne, c'est l'homme qui, reconnaissant la foi, ne la vivant pas nécessairement, mais la reconnaissant, nous vivons dans une culture chrétienne, que nous le voulions, que nous ne le voulions pas. Cette culture chrétienne est évidemment à bout de souffle, ça c'est évident, on reconnaît bien, la culture d'aujourd'hui n'est plus très chrétienne, mais elle a été chrétienne. Il y a mis encore pour des quantités de choses, des choses très curieuses. C'est très curieux. On retrouve encore de temps en temps des émergences comme ça. Et on dit, oui, ça prouve qu'au fond, on vit encore d'une culture chrétienne. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre culture occidentale a été chrétienne. Et elle est encore en partie. Elle est encore en partie. Dans cette culture chrétienne, je reconnais le ferment qui est édité, c'est la foi. Et cette foi a donné une nouvelle finalité, et donc a donné une nouvelle conception de l'homme. L'homme ouvert vers Dieu. L'homme ouvert vers Dieu, l'homme orienté vers Dieu. En considérant que Dieu est un ami. Dieu n'est pas seulement le créateur, il est un ami. Je vais tout de suite vous faire comprendre cela. Aristote se posait le problème. Est-il souhaitable à mon ami de devenir Dieu? Il pose la question dans sa recherche de sa philosophie aussi. Est-il souhaitable à mon ami de devenir Dieu? Aristote dit tout de suite, non, parce qu'il ne serait plus mon ami, il serait Dieu. Je crois que c'est assez significatif, ça. C'est assez significatif parce que ça montre comment, de fait, dans une perspective purement philosophique, Dieu, qui le transcendant, ça m'échappe complètement, et donc, souhaiter à mon ami d'être Dieu, c'est dit, je le fais. Il n'est plus mon ami, il devient Dieu. Tandis que dans une perspective de culture chrétienne, nous ne dirions plus du tout la même chose. Nous dirions l'homme, par le point de vue de la grâce chrétienne, devient l'ami du Christ. Il devient l'ami de Dieu. Et devenant l'ami de Dieu, agapetos, il devient l'ami, il devient le bien-aimé de Dieu. Et donc il est ouvert vers Dieu, il est orienté vers Dieu, parce que Dieu est venu vers lui. Lui cherche Dieu et Dieu est venu vers lui. Et donc c'est l'homme dans son ouverture vers Dieu. Et donc l'éthique chrétienne essaie de comprendre comment il y a dans l'homme des préparations, des dispositions à être transformées par la grâce chrétienne. Autrement dit, ce que je signalais la dernière fois,
et très rapidement,
comment une anthropologie philosophique voit qu'il y a de diverses dimensions dans l'homme qui sont comme des attentes à la venue de l'Esprit Saint. Si une anthropologie philosophique a cette dimension, et croyez bien que c'est absolument en dehors de la foi que je dis ça, et si vous réfléchissez bien sur ces sept dimensions de l'anthropologie philosophique, vous pouvez dire qu'il y a comme sept pierres d'attente. L'homme est un être qui attend d'être pris par Dieu. Je crois qu'on peut le dire au point de vue purement philosophique. L'être humain est un être inachevé. C'est un être d'attente. C'est du reste merveilleux, ça. Donc, un être ouvert, un être orienté. Mais vous comprenez, tant que Dieu n'est pas venu, cette orientation va dans tous les sens. Et c'est ce qu'on voit bien dans l'histoire des religions. L'attente, je veux dire, c'est très difficile d'attendre. C'est très difficile d'attendre. Quand on attend beaucoup, il y a très souvent des mirages. Mais alors les mirages, ça explique toutes les traditions religieuses et multiples. On essaie de comprendre comment Dieu vient au-devant de l'homme, comment il peut y avoir ces alliances. Tant qu'il n'y a pas une réalité vraie de Dieu qui vient vers l'homme, dans le mystère du Verbe incarné, dans le mystère de Dieu qui se fait homme, tant qu'il n'y a pas cela, on reste dans les mythes, dans l'attente. Dès qu'il y a le mystère du Christ incarné, il y a l'orientation. L'ouverture s'oriente. Et alors, à ce moment-là, on peut dire que nous sommes en présence d'une éthique chrétienne. Elle connaît cette orientation. Et je la connais à partir de l'homme. Alors, nous pouvons dire ça. Alors, en comprenant bien, nous vivons dans un climat chrétien. Je peux dire ça dans notre philosophie occidentale. Ce serait très difficile de le dire dans une philosophie qui serait celle de l'âge, par exemple, où le christianisme n'a pas imprégné le point de vue de la culture, ou en Chine. Je crois qu'en Chine, je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas dire qu'il y a une philosophie chrétienne. Non, je ne crois pas. Tandis que je peux dire en Occident. Comme en Occident, il y a un art chrétien, c'est pour ça qu'il y a une culture chrétienne, du reste. Que l'art joue un rôle très important dans la culture. Donc il y a un milieu particulier qui explique comment je peux réfléchir sur une éthique chrétienne. Vous voyez, je parle de l'homme. Tandis qu'au contraire, si je réfléchis sur une théologie morale, vous voyez bien les deux aspects, hein, si je réfléchis sur une théologie morale, je pars de la foi. Le théologien part de la foi. Saint Thomas nous a donné une théologie morale. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup à changer depuis la théologie morale de Saint Thomas à la théologie morale d'aujourd'hui. La seule différence est que celle de Saint Thomas est très intelligente et que souvent aujourd'hui, c'est moins intelligent. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et celle de Saint-Thomas est très intelligente, elle est difficile à comprendre, elle n'est pas commode. Quand vous prenez certaines théologies morales d'aujourd'hui, ça devient presque des recettes de cuisine. Alors on en a par-dessus la tête. Hein. Quand on est artiste, les recettes de cuisine, c'est secondaire. On a mieux à se donner soi-même, hein, le petit grain particulier. Bien, c'est direct. Hein. C'est très vrai que les recettes au niveau moral, c'est épuisant. Et ça ne donne pas grand-chose. Eh bien, de fait, La théologie morale parle de la foi. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qui m'intéresse. Pour voir la différence entre l'éthique chrétienne, qui parle de l'homme ouvert et orienté vers Dieu qui vient vers l'homme, vers Dieu qui donne son amitié à l'homme, vers Dieu qui donne sa béatitude à l'homme. Quand je suis en face d'une théologie morale, qu'est-ce que je vois? Je pars de la foi. Je me sers d'une philosophie, non pas chrétienne, mais d'une philosophie tout court, c'est-à-dire d'une philosophie éthique, et j'essaie de comprendre comment la foi est le levain qui transforme la part humaine. Et j'essaie de comprendre tout de suite, dans la lumière de la foi, ce qui m'est apporté directement, immédiatement. C'est pour ça qu'une théologie morale commence tout de suite par le traité de la béatitude. L'homme est fait pour la vision béatitude. Là, ce que nous dit la foi. La foi nous dit que je ne suis pas fait pour la terre. Je suis fait pour le ciel. Ça, la foi nous dit directement. Le chrétien est quelqu'un qui attend le retour du Christ. Le chrétien est quelqu'un qui est directement lié au salut. Et donc, il vit de ce salut. La foi nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous la vivons déjà dès maintenant. Et donc, par la foi, je peux comprendre tout de suite comment une théologie morale va commencer par le traité de la vision des gens. Tandis qu'une philosophie chrétienne ne pourrait pas commencer par une vision des gens. Par la vision des gens. C'est toujours très important de comprendre par où on commence. D'un côté, on commence par l'homme qui cherche Dieu. Et si Dieu vient à sa rencontre, c'est merveilleux. Mais c'est l'homme qui cherche Dieu. Et même quand il rencontre Dieu, il continue de chercher. C'est ça le problème de la philosophie chrétienne. Il continue de chercher. Tandis qu'au contraire, la théologie morale commence par la foi, immédiatement. Or, la foi me dit que je suis fait pour le ciel. Et le ciel, c'est la vision béatifique. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons dans toute sa lumière. Dans la lumière, nous verrons la lumière. Et donc la théologie morale commence par la vision béatifique. Et elle montre comment cette vision béatifique, qui est le cœur vers lequel je tends, qui est ma nouvelle fin, au sens très très fort, ma finalité, c'est la vision béatifique. Cette vision béatifique m'est donnée par l'intermédiaire du Christ. J'ai vu lui actuellement et dans la vision béatifique. Si j'adhère au Christ, je touche la fin. Vous savez ce petit passage dans l'Évangile, hein, c'est tout à fait, qui montre exactement ça. C'est dans Saint Jean au chapitre 6. Après la multiplication des pains, tous ceux qui ont mangé des petits pains frais, on n'a qu'un seul désir, c'est que Jésus soit proclamé roi, parce que à partir de là, on aura cette possibilité de ne pas travailler et d'avoir des petits pains frais tous les jours. Au fond, c'est la nostalgie que nous avons tous. Nous avons la nostalgie de ne pas travailler. Et cette nostalgie de retourner au paradis terrestre et d'avoir des petits pains frais tous les matins sans avoir travaillé. Merveilleux. Or, Jésus le fait. Il le fait après toute une longue course, quand on a voyagé toute une journée, et quand vous faites des petits pains frais le soir, oh, c'est délicieux, c'est merveilleux. Non, quand vous avez faim, c'est merveilleux. Quand vous avez déjà pris un très bon repas à midi, et qu'on vous sert un très bon repas le soir, vous n'avez pas envie du tout de manger. Alors, les petits pains frais, non, non, non. Jésus est très astucieux, il est très malin. Alors il a fait marcher les gens pendant toute la journée. pour qu'il puisse goûter les petits vins frais. Et alors, il a donné des petits vins frais, tu vois. Des petits vins merveilleux, des petits vins.
Et on pouvait en prendre autant qu'on voulait, sans donner de l'argent.
C'est merveilleux, ça. Alors, à ce moment-là, ça vise à tout de
suite. Quand vous regardez le prix, ça arrête à tout de suite. Vous quand vous avez, on prend autant que vous voulez, on prend autant que vous voulez, ça n'a plus une espèce d'importance.
Alors, ils ont pris ce petit pain frais, le plus petit. Il n'avait qu'un seul désir, c'était de mettre la main sur Jésus. Il a retrouvé un roi. Et tous les jours, il nous donnera du pain. Et des petits pains frais, tous les jours, sans travailler.
C'est évidemment, avoir une carte de chrétien vous permettez de ne pas travailler et d'avoir des petits pains frais tous les jours, mettez-vous, hein, à la place de l'étoile, et vous aurez tous les chrétiens possibles, imaginables.
C'est bien évident, ça.
Ils avaient cru, ça. C'est très curieux, ça. C'est très beau, du reste. Parce que c'est le messianisme temporel, ça. Nous avons tous en nous ce messianisme temporel. Le retour au paradis terrestre. Ne pas travailler.
Évidemment, hein. Le jour où on vous dit que vous êtes à la retraite, vous êtes encore plus malheureux.
Le jour où on vous met au chômage, vous êtes encore plus malheureux.
Parce qu'au fond, vous criez quand vous travaillez, et quand on vous enlève au travail, vous criez encore plus fort. L'homme est arrivé à ça aujourd'hui, hein? Il crie tout le temps.
Alors, plus ou moins fort, mais il crie tout le temps.
Alors, bon, ils veulent faire Jésus un roi. Jésus s'échappe. Les apôtres ont été contaminés par cette espèce de désir de messianisme temporel. Parce que Jésus leur avait demandé de ramasser toute une herbe. Ça ne se fait pas de laisser du petit pain frais sur l'herbe. Et Jésus ne veut pas qu'on laisse du petit pain frais sur l'herbe. Et donc il veut les ramasser. Il demande aux apôtres de les ramasser. En les ramassant, les apôtres ont pratiqué la spiritualité du contact. Et alors, en ayant la spiritualité du contact, ils ont été contaminés par ce que la foule pensait, le messianisme temporel. Et eux-mêmes ont été pris. Et c'est pour ça que Jésus est parti tout seul. Mais les apôtres se sont plus vite revenus à la réalité. Ils n'ont pas dormi, là. Ils sont partis jusqu'à 5 heures. Ils ont travaillé. Et le travail nous remet dans le réalisme. On n'est plus dans des idéologies, on n'est plus dans l'imaginaire. Dès qu'on travaille, on voit Dieu dans le réalisme. Et en étant sur le lac, avec la tempête, ils ont été obligés de retrouver un réalisme. Ils ont retrouvé un véritable réalisme. Et durant la nuit, ayant déjà beaucoup travaillé, ayant déjà beaucoup lutté contre le vent, ayant beaucoup ramé, Jésus arrive la nuit. Et la Bible ne craignait pas, parce qu'il croyait que c'était un fantôme. Ne craignez pas. Et dès que Jésus est là, on atteint le terme. J'aime beaucoup ça. Dès que Jésus est là, on atteint le terme. Vous voyez, ça montre très bien. La présence de Jésus nous fait toucher tout de suite au terme. Je crois que c'est très important ça. Parce que ça nous fait comprendre que la foi nous fait tout de suite toucher le terme. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vision béatifique. La foi ne donne pas la vision béatifique. Parce que c'est dans l'obscurité, mais nous fait toucher le terme. Alors, la théologie morale, elle part du terme. Elle part de la fin. C'est-à-dire la vision de Dieu. Et à partir de cette fin qui nous est donnée dans le Christ, lui, a la vision béatifique. Dans la foi, nous touchons le Christ. Et parce que nous touchons le Christ, nous touchons la vision de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui atteint le terme. Le vrai chrétien. Celui qui a la foi. Celui qui vit la foi. Bien, c'est celui qui atteint le terme. Une foi contemplative nous fait vivre du terme. Et nous fait vivre immédiatement de ce terme. Et c'est pour ça que la théologie morale commence par la vision béatifique. Et elle peut le faire. Parce que nous pouvons, au point de vue théologique, au point de vue de la foi, parler de la vision béatifique. Même si nous n'avons pas d'expérience. C'est toute la différence entre la théologie et la philosophie. Et quand on fait des confusions entre les deux, alors on ne fait plus qu'une théologie d'expérience. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait une théologie d'expérience. Mettez en commun vos expériences et à partir de là, on va faire une théologie. Pas du tout. La théologie, elle parle de la parole de Dieu. Et elle parle de la parole de Dieu et c'est pour ça qu'elle peut tout de suite regarder la béatitude, la vision béatitude. Et c'est dans la lumière de la vision béatitude qu'on va élaborer une théologie morale. Dans cette théologie morale, on va regarder comment l'homme est capable d'atteindre cette béatitude. Et nous verrons tout de suite, dans une théologie morale, ce que représentent les vertus pionnières. De foi, d'espérance et d'amour. Seules les vertus théologales nous permettent d'être en contact direct avec notre femme, qui est notre béatitude. Et toute la théologie morale commence par une théologie super-morale, c'est-à-dire les vertus théologales. Et dans la lumière des vertus théologales, on regardera les vertus morales. Pourquoi ? Parce que nous savons que la grâce ne détruit pas la nature. Et donc la foi ne détruit pas l'intelligence. L'espérance ne détruit pas nos tendances humaines. Et l'amour surnaturel ne détruit pas l'amour humain. Et ne détruit pas le point de vue de la volonté. Donc, il faut, dans la lumière des vertus théologales, regarder les vertus morales. Or, pour comprendre les vertus morales, il faut comprendre ce qu'est l'art humain. Et c'est pour ça que la théologie morale va regarder jusqu'à l'acte humain. Mais dans la lumière de la vision béatifique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la lumière de la vision béatifique. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'éthique chrétienne, donc du philosophie chrétienne, qu'on appelle l'éthique chrétienne, pour préciser, pas la philosophie tout court, mais la philosophie pratique. C'est l'homme qui cherche à découvrir sa fin. C'est l'homme qui est en quête de Dieu. Et Dieu vient à sa rencontre. Il rencontre le Christ. Il comprend à ce moment-là que, de fait, il y a en lui des dimensions nouvelles qui s'expliquent, et qui avant s'expliquaient pas. Et ces dimensions profondes, c'est de comprendre qu'il y a en lui une attente profonde aux béatitudes évangéliques. L'homme est fait pour les béatitudes évangéliques. Dans ce qu'il a de plus profond en lui. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'il a de plus profond en lui, il est fait pour aimer. On est vraiment homme que dans la mesure où on aime. C'est bien évident. Et dans la capacité d'amour qu'on a. Or, les béatitudes évangéliques représentent tout simplement l'épanouissement plié d'amour. L'amour implique la pauvreté, l'amour implique la douceur, implique l'amour, la miséricorde, l'amour implique la paix, l'amour... Et toutes les béatitudes évangéliques. C'est l'éclatement, le feu d'artifice de l'amour. C'est ça les béatitudes évangéliques. C'est le feu d'artifice. C'est cette espèce d'éclatement merveilleux. Alors à ce moment-là, vous comprenez comment l'éthique chrétienne nous montre comment dans le cœur de l'homme, il y a une attente profonde aux béatitudes évangéliques. Alors à ce moment-là, c'est très important de montrer cela. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout la théologie morale. La théologie morale, elle parle de la foi. Alors, si on compare ces deux on voit que le cheminement des deux est tout à fait différent. L'un part de Dieu, qui est le régime moral, l'autre part de l'homme, éthiquement chrétienne. Première différence. Donc là, deux mouvements tout à fait différents. Deuxièmement, deux ordres différents. Puisque, de fait, le propre d'une sagesse implique un ordre. Ce qui est du premier dans la théologie morale, c'est de commencer par la béatitude et d'assumer l'acte humain. D'aller jusqu'au bout de l'acte humain. C'est-à-dire, l'acte humain, c'est un acte volontaire. J'ai tiré le volontaire, mais dans la lumière de la béatitude évangélique, dans la lumière de la vision béatifique. Tandis qu'au contraire, dans l'éthique chrétienne, je pars de l'homme, je pars de l'acte humain. Et je montre comment l'acte humain, qui est un acte volontaire, un acte d'amour, progressivement, permet à notre cœur humain de s'épanouir pleinement dans toutes les dimensions et les modalités de l'amour. Et c'est toujours un peu une attente. Enfin, je crois que nous pouvons dire que s'il y a un ordre différent, il y a cette très grande différence entre la théologie morale et l'éthique chrétienne, c'est que la théologie morale se fait dans la lumière de la révélation, donc dans la lumière de l'Évangile, dans la lumière du Christ. C'est le Christ qui est la lumière de la théologie morale, tandis que lorsqu'il s'agit de l'éthique chrétienne, la lumière, c'est toujours notre intelligence humaine qui essaie de comprendre en profondeur ce qu'est l'homme, qui essaie de comprendre en profondeur les dimensions de l'intelligence et de la volonté humaine, les dimensions de l'homme dans ce qu'il a de plus humain. Pour comprendre comment le don qui nous est fait du Christ, le don qui nous est fait de la révélation, ne va pas contre les exigences les plus profondes du cœur de l'homme, mais au contraire, épanouit dans le cœur de l'homme ce qu'il y a de plus intime. Et on explique ça en dernier lieu en disant que c'est passionnant. Si la révélation vient bien de Dieu et que l'âme spirituelle de l'homme est créée par Dieu, c'est le même Dieu qui est créateur de l'homme, de l'âme humaine, et c'est celui qui nous donne le don de la foi, c'est le même Dieu qui est source de notre intelligence et qui nous donne la révélation. Il ne peut pas y avoir donc de contradiction. Il peut y avoir au contraire que cette chose très extraordinaire, que le don de la grâce, que le don de la foi, que le don de l'espérance et le don de la charité épanouit pleinement ce qui en nous, sans la foi, sans l'espérance, sans l'amour, restait toujours un état virtuel, un état d'attente, impuissant, un bourgeois. Et que ça ne s'épanouit que par la foi. Je crois que c'est le propre de l'éthique chrétienne de mon côté, à la différence de la théologie morale.